Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur.
Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? Elle répondit : Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les enfants du primaire sont invités à aller avec le Père Gilles pour une homélie plus adaptée. Les textes que nous présente la parole de Dieu aujourd'hui convergent d'une façon très singulière. D'abord, dans le livre du prophète Isaïe, on nous parle de la sortie d'Égypte. Souvenez-vous, les Hébreux sont au bord de la mer Rouge, et voilà que les Égyptiens arrivent à leur rencontre. Ils pensent qu'ils sont morts, que ça y est, c'est fini. Mais Dieu ouvre un chemin dans la mer. Et non seulement Dieu ouvre un chemin dans la mer, mais ses chevaux et ses cavaliers qui les poursuivent, voilà que la mer les recouvre et qu'ils sont couchés pour ne plus jamais se relever. Victoire totale à partir d'une situation impossible. Et le prophète en profite pour annoncer le retour de l'exil à Babylone. Un chemin va s'ouvrir dans le désert pour que vous puissiez rentrer. Eh bien, ces situations ressemblent singulièrement à ce qui arrive pour notre femme adultère. Elle aussi, elle croit bien être morte. Jésus aussi est condamné. Il pense bien lui avoir tendu un piège suffisant pour pouvoir l'accuser. Et puis là encore, Jésus va ouvrir comme un chemin dans la mer, quelque chose d'inattendu. Pourtant, la loi de Moïse était très précise. Je cite le livre du Deutéronome. Cet homme ou cette femme qui ont fait cette mauvaise action, tu les feras conduire à tes portes et tu les lapideras jusqu'à ce qu'ils meurent. La main des témoins sera la première pour les faire mourir et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme, tu ôteras d'Israël le mal. Donc on voit qu'il s'agit non seulement de châtier les coupables, mais aussi un rôle social, de retirer le péché, le mal du peuple saint. En face de cela, Jésus qui voit le fond des cœurs, se rend compte que le plus gros péché n'est peut-être pas là où l'on croit. Voici comment l'analysait un chartreux du début du XXe siècle, Don Guilleran. « En face de cette femme coupable, dit-il, horriblement humiliée et qui doit souffrir le martyre, et de ces hommes sans cœur qui ne songent qu'à leur haine sous couvert de zèle. » On l'entend un peu dans l'Évangile. Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Lui, Jésus, sait le secret des consciences et des conduites. Et il rétablit cette vérité qu'au-dessus de la loi qui punit les fautes connues, il y a la justice de Dieu qui frappe les culpabilités masquées sous des dehors de vertu. C'est le fond de la révélation que Jésus vient apporter. Le Dieu trois fois saint, le Dieu tout amour et toute miséricorde, est entièrement absent du cœur de ceux où règne la haine. Et donc il se passe comme pour la traversée de la mer Rouge. ceux qui accusaient, voilà, sont complètement renversés. Et c'est la femme et Jésus qui sortent victorieux. Alors on peut peut-être se demander, oui, tout ça est bien beau, mais est-ce que Jésus, en s'y prenant ainsi, n'est-il pas en train de tout foutre par terre ? Parce que la loi, c'est quand même important. Or ici, il semble bien que Jésus méprise la loi. Il retire leur légitimité au juge. Le pape François a dit un jour, et ça a scandalisé un peu les gens, voilà, qui suis-je pour juger ? Et même Jésus lui-même, en ne condamnant pas, semble renier l'importance de la loi et de tout foutre par terre. Alors, essayons d'y voir plus clair. D'abord, Jésus ne dit rien contre la loi. Il s'en garde bien. Et même quand on lit son enseignement après les Béatitudes, on voit Jésus qui nous dit, on vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme en la désirant a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc, comme il le dit lui-même, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir, la porter à son accomplissement, à un accomplissement plus profond. Quant au rôle des juges, bien sûr, c'est délicat. Bien sûr, il faut sans doute des juges pour la société, et Jésus nous dit sans doute qu'il faut essayer de choisir parmi les gens qui sont les plus saints, qui ont le moins de péché eux-mêmes, parce que sinon on rentre facilement dans l'hypocrisie. Ce sur quoi Jésus insiste, c'est sur le fait que la loi et l'application de la loi ne suffisent pas à résoudre les problèmes. Ce qui est nécessaire pour que notre monde soit meilleur, c'est la conversion des cœurs, la conversion en profondeur. Et c'est justement ce dont nous parle saint Paul dans la lettre aux Philippiens que nous venons d'entendre. Tous les avantages que j'avais autrefois, nous dit-il, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus. Quels sont donc ces avantages dont nous parle saint Paul ? Souvenez-vous, saint Paul était un jeune pharisien plein de fougue. Il était aux yeux de la loi et de Dieu irréprochable. À coup d'efforts, de privations, de discipline, il était impeccable envers la loi. Et il avait bonne conscience. Au point que ces chrétiens, qui semblaient déviés de la loi, il allait les pourchasser jusqu'à Damas pour les faire enchaîner, les mettre en prison. Et il était fier de tout ça. Seulement, voilà, nous le savons bien, sur la route de Damas, il est terrassé. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors ses yeux s'ouvrent. Il comprend que toute sa fierté, tout cela, c'est de la boue, c'est rien du tout. Il n'y a que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui soit ma fierté. Il découvre par là qu'il a découvert le trésor inestimable, qu'il appelle dans la lettre aux Philippiens la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance, j'allais dire, charnelle, physique, intellectuelle aussi, une connaissance totale, absolue. Comme on connaît quand on dit un ami, son épouse, et encore, je le connais. Mais c'est encore plus profond que ça. Et il nous l'explique bien. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, c'est-à-dire d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion. Éprouver la puissance de sa résurrection. C'est ce qu'il a éprouvé sur le chemin de Damas. C'est ce que les Hébreux ont éprouvé au bord de la mer Rouge. C'est ce que la femme adultère a éprouvé. Elle a éprouvé la puissance de la résurrection de Jésus. Et nous, est-ce que nous avons éprouvé cette puissance de la résurrection dans chacune de nos vies? Personnellement, je dirais simplement que voilà, je ne serais pas là si je n'avais pas éprouvé la puissance de cette résurrection à travers en particulier le sacrement de pénitence. Et puis nous pouvons penser bien sûr aux saints qui nous entourent, Saint Jean-Paul II, Sainte Mère Teresa et bien d'autres, le bienheureux bientôt Saint Carlo Acutis. Voilà, voilà la puissance de la résurrection de Jésus qui est encore en œuvre. Alors nous pourrons aussi, comme le dit Saint Paul, communier aux souffrances de sa passion. La passion de Jésus, c'est Jésus qui prend sur lui tous nos péchés. Et nous voyons par là que Jésus n'a pas envoyé la loi aux oubliettes. Quand il meurt sur la croix, il prend sur lui les péchés de cette femme adultère et la condamnation qu'elle mérite. Il prend sur lui la condamnation que nous méritons quand nous allons demander pardon au sacrement de pénitence. Et nous sommes invités, nous aussi, pendant ce carême en particulier, à prendre sur nous non seulement nos souffrances, mais aussi celles de notre monde d'aujourd'hui qui en a tant besoin, pour lui faire connaître la miséricorde de Dieu. Alors oui, chantons avec le psaume, et je terminerai par là. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, les captifs de tous les péchés, nous étions en rêve, notre bouche était pleine de rire. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Ramène nos captifs, tous ces captifs du péché, de notre monde d'aujourd'hui. Allons en pleurant. Portons, faisons pénitence pendant ce carême pour jeter la semence de la vie divine autour de nous et que nous puissions revenir dans la joie en apportant les gerbes. Va et ne pêche plus. Amen.